Badania europejskie.
Rozumienie tutaj Europy.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Abla Junaidi, Guillaume Munier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au carrefour de l'Europe. Qui n'a pas vu ces images de migrants se jetant à l'assaut des barrières de Ceuta et Melilla entre Maroc et Espagne, ou encore ces barques de migrants voguant sur une mer méditerranée démontée en plein hiver. Les chiffres cités par Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'UE, au début du mois ont de quoi alarmer. Près de 300 000 migrants en situation irrégulière sont entrés dans l'UE en 2014 et la tendance semble se poursuivre en ce début d'année, sans compter les milliers de migrants qui attendent aux portes de l'Europe, sans compter les milliers qui n'y sont pas parvenus car engloutis dans la mer. Triste record, plus de 3000 morts l'an passé. L'Europe est-elle dépassée? Que fait-elle pour répondre à ce défi? Avec quels moyens? Comment préserve-t-on sa stabilité sans remettre en cause ses acquis et ses valeurs? Bonjour Karine Farot.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à la faculté de Cergy-Pontoise. Vous y enseignez le droit, celui des étrangers. Notamment, il semble qu'il n'a jamais été aussi difficile d'être migrant aujourd'hui.
Oui, si vous voulez, on peut dire ça. Disons que depuis qu'il existe, hein, l'homme, l'homo sapiens, sapiens, marche, hein, depuis qu'il existe, et ça fait à peine 20, 30 ans, hein, que les États dits démocratiques tentent de l'empêcher de circuler tranquillement à travers le monde.
Jean-François Dubos, bonjour. Vous êtes responsable du programme Personnes déracinées d'Amnesty International France. Votre rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde est paru il y a 3 semaines. La réponse de l'Europe aux crises humanitaires issues des conflits en un mot?
Honteuse et déplorable. Pas de réponse, en fait, pas de réponse à la hauteur. On a des crises qui sont les plus proches de l'Europe depuis un certain nombre d'années maintenant. Plus grave crise des réfugiés dans le monde et les réponses ne sont pas là, en fait. On continue de se tourner sur le contrôle des frontières.
Enfin, en ligne de Bruxelles, Cachetto Kingue, eurodéputée sociodémocrate italienne, ancienne ministre de l'intégration dans votre pays. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, mettre en place une véritable politique migratoire européenne, vous pensez aussi, comme le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, c'est un des défis les plus importants de l'Union européenne aujourd'hui?
Oui, exactement. Et je crois que le Parlement l'a démontré aussi à travers la résolution qu'on a adoptée le 17 septembre 2014 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité justement d'une approche globale de la question des migrants et de la part de l'Union européenne. Et je crois que c'est un des grands défis de cette législature et on y travaillera avec le Parlement, la Commission et le Conseil aussi.
Alors on va revenir d'abord sur l'ampleur de l'immigration clandestine en Europe. En la matière, Anthony Favalli, 2014 fut l'année de tous les records.
Oui, 278 000 migrants clandestins ont franchi les frontières de l'UE. C'est presque le triple de l'année 2013 et la tendance s'accentue. Sur les 2 premiers mois de cette année, le bond est de 250% par rapport à la même période en 2014. Alors d'où viennent-ils? De zones affectées par des conflits, très pauvres ou gouvernées par des régimes autoritaires. Les plus nombreux d'entre eux sont les Syriens qui fuient la guerre civile. Viennent ensuite les Érythréens, les Marocains, les Afghans ou encore les Albanais aux portes de l'Union européenne. Par ailleurs, depuis le début de l'année, la Hongrie est confronté à un afflux massif de migrants en provenance des Balkans, à tel point que le pays a dû demander l'aide de Frontex. En transit par la Serbie, chaque jour, des milliers de Kosovars tentent d'accéder à l'UE.
Mais la Méditerranée reste la principale porte d'entrée vers l'Europe, Anthony.
Tout à fait, si on prend le chiffre des 278 000 migrants clandestins en 2014, les 3/4 ont franchi la Méditerranée, entassés sur des bateaux de fortune, du jamais vu, même lors des printemps arabes en 2011, ils étaient 3 fois moins. Alors il y a essentiellement 2 voies qui sont empruntées, celle de l'est de la Méditerranée. Là, les migrants passent de la Turquie à la Grèce ou au sud de la Bulgarie ou encore à Chypre. Et puis, il y a la plus importante, celle du centre de la Méditerranée. Cette voie bien connue qui part des côtes libyennes à l'île italienne de Lampedusa.
Oui, bien connue pour être la route la plus mortelle du monde.
Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, l'an dernier, plus de 3400 personnes ont péri lors de leur traversée. C'est 4 fois plus qu'en 2013. L'organisme a d'ailleurs critiqué la gestion migratoire des pays européens, dont les gouvernements cherchent plus à maintenir les étrangers hors des frontières qu'à respecter le droit d'asile. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Antonio Guterres, qui dirige cette agence des Nations Unies. C'était en septembre dernier sur France 24.
Ce qui est dramatique, c'est que comme il n'y a pas des voies d'accès légales à l'Europe, ils sont tous ensemble dans les mains de passeurs, de trafiquants, qui sont des organisations criminelles, qui les exploitent. Il faut qu'il y ait une stratégie de coopération entre les pays européens et avec les autres pays du bassin méditerranéen contre ces groupes Et en même temps, il faut offrir plus d'opportunités légales aux gens pour accéder à l'Europe.
Et pour éviter les drames comme ce chalutier qui coulait à l'automne 2013 au large de Lampedusa, 366 morts je le rappelle, l'Italie avait mis en place l'opération Mare Nostrum, une opération de sauvetage essentiellement financée par Rome qui a sauvé 150 000 vies en un an, mais qui a aussi coûté 114 millions d'euros à l'Italie, trop pour un seul pays. Alors en novembre dernier, elle est abandonnée pour la mission Triton coordonnée par Frontex. 15 États membres y participent et fournissent avions, bateaux, hélicoptères et officiers pour un budget de 3 millions d'euros par mois. Des moyens divisés par 3 pour une mission qui n'est pas de sauver des vies mais de surveiller les frontières les plus proches des côtes italiennes. Fabrice Leggeri, directeur de Frontex.
L'Union européenne n'a pas de politique, elle n'a pas de compétences pour exercer le secours en mer. Le secours en mer, il se fait par les États. Non. Je ne dis pas qu'on les sauve pas, je vais au contraire vous montrer que nous les sauvons malgré tout et malgré cette situation juridique qui fait que l'Europe n'a pas de compétences en matière de secours en mer. Depuis le lancement de l'opération Triton, 1er novembre 2014, un tiers des vies qui ont été sauvées en mer ont été sauvées grâce à la contribution de Triton.
Le mois dernier, la Commission a décidé de prolonger en urgence l'opération Triton jusqu'à la fin de l'année et débloquer une aide à l'Italie de plus de 13 millions d'euros. Face aux difficultés des États membres à se mettre d'accord sur une véritable politique migratoire, l'UE tente, comme elle peut, de colmater les brèches.
Jean-François Dubos, un tel mouvement de population, on n'a pas vu ça depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale. Il faut rappeler le contexte dans lequel on se trouve, hein, ce fameux arc des crises qui enserre le continent et qui alimente le flux des migrants.
Oui, c'est la plus grave crise des réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement tirée cette crise par le conflit en Syrie. 4 millions de personnes qui sont en dehors de Syrie, principalement 95% dans les pays voisins de la Syrie. Lesquels pays voisins? Notamment parce que ils ne reçoivent pas d'aide suffisante et concrète de la part des autres États de la communauté internationale, ne sont plus en mesure d'accueillir ces réfugiés, ne veulent plus le faire, prennent des mesures restrictives à leur encontre, les empêchent de séjourner régulièrement, leur imposent des visas, et donc cela pousse les réfugiés syriens qui de toute façon ne peuvent pas rester en Syrie, ne peuvent pas y retourner, à prendre d'autres voies, d'autres chemins pour trouver un refuge. Et aujourd'hui, c'est vers l'Europe qu'ils se tournent. Et effectivement, l'Europe n'organise pas cette fuite-là. C'est toute la raison de ces morts en Méditerranée, par exemple.
Alors, cachez tout, Kenge, votre pays, l'Italie, est en première ligne, si j'ose dire. Vous étiez au gouvernement lorsqu'a été décidée la mise en place de l'opération Mare Nostrum pour sauver les migrants. Cette opération a cessé en novembre dernier. Donc, votre pays a-t-il toujours l'impression d'être le gendarme de l'Europe face à ces migrants et d'être abandonné à son sort?
Il y a un point qu'on avait soulevé avec Mare Nostrum, c'était pas le fait que ce projet devait appartenir uniquement à l'Italie, mais c'était le fait de faire voir à l'Europe que l'Europe a des obligations de recherche et sauvetage à travers la mer, mais à travers ce programme, il y avait aussi la lutte contre les passeurs, contre les trafiquants d'êtres humains, et qui devait rapidement devenir, pas Mare Nostrum, mais devenir un projet européen, c'est-à-dire à l'intérieur d'une politique européenne commune. Alors c'est là qu'il faut comprendre qu'une politique européenne commune doit aller dans le sens d'un partage équitable des responsabilités. Donc vous comprenez que ça ne sera pas seulement aider l'Italie, mais ça sera une politique européenne. Alors moi je crois que le passage de Mare Nostrum à Triton, ça a été à mon avis une faiblesse de la part du Conseil, donc des gouvernements, des États membres qui normalement devaient trouver une solution pour une intégration politique. Et ce qui était contenu dans Mare Nostrum, c'était une opportunité, et on a fait ça puisque l'Italie ne pouvait pas assister, je crois, impuissant à tout ce qui était en train de se passer dans la mer Méditerranée. Donc c'est ça le problème. On a besoin aujourd'hui d'une réponse politique qui va au-delà de la mer Méditerranée, au-delà des frontières, qui puisse aussi tenir compte aussi de tout ce qui se passe comme conflit en dehors de notre continent, aider aussi tous les pays qui sont voisins, par exemple, autour de la Syrie. Je peux parler du Liban ou...
On va revenir sur toutes ces questions-là dans la suite de l'émission, Madame Kenge. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Madame Parot. Triton, donc cette opération donc menée par Frontex, a une vocation clairement sécuritaire. Mais est-ce que finalement, on n'en demande pas trop à Frontex? Est-ce qu'il concentre toutes les critiques, à la fois des ONG, à la fois de certains partis, notamment d'extrême droite? Est-ce qu'on n'en demande pas trop? Est-ce qu'on ne se décharge pas un peu sur cette agence pour ne pas avoir à aborder, à élaborer une politique migratoire, on va dire, exigeante?
D'abord, peut-être rappeler ce que c'est que l'agence Frontex. C'est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, donc qui a été créée en 2004 par l'Union européenne pour, en fait, protéger, enfin, ensemble, pour que les États gèrent comme ils le disent, de manière efficace, la plus efficace possible, leurs frontières communes. Puisqu'ils ont fait disparaître leurs frontières intérieures, ils ont décidé de gérer ensemble la sécurisation de leurs frontières extérieures. Oui, d'une certaine manière, on lui en demande trop à Frontex. C'est une agence, on pourrait dire, quasi militaire. C'est pour sécuriser les frontières. Donc on va pas, c'est certainement trop lui en demander que de faire du sauvetage en mer. Par contre, ce sur quoi il faut bien être clair, c'est que l'Europe a une politique migratoire commune. Elle a une vraie politique migratoire commune qui est de fermer les frontières et de créer un mur juridique d'abord par la nécessité d'obtenir un visa pour pénétrer l'espace Schengen, l'espace de l'Union européenne, et c'est ça qui pousse les migrants à risquer leur vie pour pénétrer le territoire de l'Union européenne, parce qu'ils ne peuvent pas prendre un moyen de transport légal, normal, si j'ose dire, parce que pour cela, il faut un visa et que les transporteurs contrôlent a priori l'existence de ce visa, ce qui les oblige donc à risquer leur vie. La question n'est pas de savoir si l'Union européenne a compétence ou non pour sauver les vies en mer, parce que là, on arrive déjà, quand on se pose la question de savoir qui doit sauver, comment on doit sauver, est-ce qu'on a bien sauvé, on est déjà en partie en aval du vrai problème. La question que doit se poser l'Union européenne, c'est comment faire pour que les gens ne risquent pas leur vie pour venir dans l'Union européenne. Et c'est pas une fois qu'ils sont sur le bateau en train de couler, de se dire, tiens, qu'est-ce qui va les sauver? Est-ce qu'on a lancé le bon canot de sauvetage? C'est quelle politique, au sens réel du terme, c'est-à-dire quelque chose de d'émancipateur, quelque chose de collectif qui corresponde à l'intérêt général, quelle politique on mène pour que les individus qui ont envie de venir en Europe puissent le faire sans risquer leur vie.
Jean-François Dubos, on a parlé de la situation dramatique des Syriens. Est-ce que le blocage ne se trouve pas dans les pays où ils sont actuellement réfugiés, où ils demandent déjà des visas, ils émettent des demandes d'asile et ils sont tout simplement refusés? Est-ce que le blocage n'est pas là-bas?
Si l'on prend le cas des réfugiés syriens, les cinq pays concernés sont l'Irak, le Liban, principalement la Jordanie, la Turquie et l'Égypte. Si on parle des Érythréens, qui constituent la deuxième ou troisième nationalité représentée aux frontières extérieures de l'Union européenne, ça sera le Soudan et l'Éthiopie qui sont les premiers pays d'accueil de ces ressortissants-là. Est-ce qu'on peut parler de blocage? Je crois pas. C'est simplement que si on prend le cas du Liban, sa population a augmenté. Si on veut faire un comparatif avec la France, l'arrivée des réfugiés syriens au Liban représenterait en France un équivalent de 17 millions de personnes en plus. On comprend bien qu'au bout d'un moment, un État, quelle que soit sa volonté, en tenant compte de son économie, de ses problèmes sécuritaires, politiques, internes, etc., ne peut pas, à un moment donné, absorber une population en aussi peu de temps, avec toutes les implications, en plus que ça peut avoir d'être complètement à côté du foyer de la crise d'où viennent les réfugiés. Je pense pas qu'on puisse parler de blocage et peut-être d'une responsabilité défaillante des États proches de la Syrie, par exemple, mais plutôt d'une défaillance de l'Union européenne et des autres États de la communauté internationale, qui certes alimente, mais difficilement financièrement, le soutien à l'aide humanitaire apportée aux réfugiés, mais vraiment très difficilement. Le Programme alimentaire mondial avait même dû annoncer un peu comme un défi la suspension de la livraison de la moitié de son aide parce qu'il n'avait pas le financement. Donc, au final, il a réussi à l'obtenir, mais jusqu'à combien de temps? Donc une aide financière difficile à obtenir et puis surtout zéro engagement en termes de solidarité internationale. Le Liban donc accueille plus d'un million de réfugiés syriens sur son territoire et la France va décider a accueilli 506 personnes depuis le début du conflit. J'entends par les 506 personnes, 506 personnes particulièrement vulnérables. Il y a eu d'autres Syriens qui ont pu arriver sur le territoire. L'Union européenne s'illustre par son absence de solidarité et d'engagement justement par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure dans la réinstallation, c'est-à-dire l'accueil directement depuis les zones proches du conflit de personnes qui ont véritablement besoin de protection, au sens qu'ils sont en situation d'urgence de soins et de protection. Et c'est la même chose pour le reste des pays du monde. En fait, là, on parle de l'Europe, mais on peut parler aussi des pays du Qatar qui n'ont accueilli juste zéro réfugié de Syrie, le Japon également, l'Australie difficilement, le Canada également. Donc il y a un problème de solidarité internationale qu'on retrouve aussi à l'échelle de l'Union européenne. L'Allemagne a fait un engagement pour 30 000 Syriens accueillis là dans les années à venir et déjà passées. La Suède s'illustre aussi par sa politique d'accueil. Ce sont les deux seuls États, et encore dans des proportions très limitées, qui manifestent une solidarité par rapport aux pays qui souffrent le plus de l'accueil de ces réfugiés. Je pense que le blocage ne vient pas tant des pays voisins, mais plutôt de la réaction de la communauté internationale, dont l'Union européenne.
Karine Parot, cet afflux massif quasi inédit a provoqué en tout cas un engorgement des centres de rétention administrative dont certains offrent des conditions de séjour parfois indignes. Mais en vertu d'accords bilatéraux passés avec certains pays voisins de l'Union européenne, on a bien pire que ces centres. Qu'est-ce que l'externalisation de la gestion des flux migratoires ?
Alors, l'externalisation de la gestion des flux migratoires a plusieurs aspects, mais celui auquel vous faites allusion tient à des accords qui, donc, pendant longtemps, ont été signés, vous avez raison, de manière bilatérale, c'est-à-dire entre les États de l'Union européenne et des États limitrophes de l'Union, la Libye, l'Ukraine, le Pakistan aussi, bon, qui n'est pas limitrophe, un peu plus loin, le Maroc. Et puis l'Union européenne, là, pour le coup, on peut parler de problème de compétence, a finalement acquis une compétence, justement, pour gérer les flux migratoires. Et donc, s'est mis elle-même à signer ces accords. Et qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne signe avec un certain nombre d'États, sans égard pour le respect par ces États des droits fondamentaux, des conventions par lesquelles ces États s'engagent à récupérer les migrants en situation irrégulière sur le territoire de l'Union européenne, selon une procédure accélérée. Par exemple, un des accords qu'on a dénoncé dernièrement, c'est l'accord signé entre l'Union européenne et le Pakistan, un accord dit de réadmission, parce qu'il faut voir que pour expulser un étranger dont vous voulez, qui est en situation irrégulière sur votre territoire, il faut trouver un pays qui veuille bien le récupérer. Et donc, si ces accords permettent de renvoyer plus facilement les étrangers, soit dans leur pays d'origine, soit dans un pays par lequel ils ont transité. Et si je reviens sur l'accord UE-Pakistan, cet accord nous a permis à l'Union européenne de renvoyer au Pakistan des Pakistanais qui étaient en situation irrégulière sur le territoire européen, mais également, par exemple, des Afghans qui auraient transité par le Pakistan pour rejoindre l'Union européenne. Ce qui fait que l'Union européenne renvoie vers des pays comme le Pakistan, des individus, sans savoir les traitements qui vont leur être réservés. Et pour revenir sur la question que vous me posiez, celle de la rétention, il y a de nombreux camps qui sont construits, parfois avec l'aide financière de l'Union européenne, et la Libye, là, pour le coup, est au premier au rang de ces exemples, où beaucoup de camps, une quinzaine de camps, ont été construits avec l'aide financière de l'Italie et de l'Union européenne, pour enfermer les migrants indésirables sur le sol de l'Union européenne.
Kachetou Kiengé, il y a un système européen qui est à bout de souffle, dit-on, c'est Dublin 2, ce règlement qui prévoit que lorsqu'un demandeur d'asile arrive en Europe, c'est au pays par lequel il est entré, eh bien, qui est chargé d'examiner sa demande d'asile, ce qui crée encore une pression accrue sur les pays frontaliers comme le vôtre. Comment réformer ce système ?
Oui, exactement. Moi, je crois que réformer Dublin, qui est un règlement qui fait partie justement de la stratégie d'asile, puisque c'est l'unique qu'on connaît assez bien, c'est le fait de pouvoir avoir une distribution équitable parmi des pays de l'Union européenne des réfugiés, mais surtout d'avoir une reconnaissance mutuelle du statut de réfugié un peu dans tout le pays, puisque c'est pas le cas aujourd'hui. Quand quelqu'un demande à le statut de réfugié dans un pays, il ne peut pas se déplacer avec ce document dans un autre pays, ce qui fait que pratiquement, c'est un peu ce qui se passe en Italie, qui se passe dans d'autres pays. Les personnes restent bloquées dans le pays là où ils demandent l'asile, et ça ne peut pas fonctionner de cette façon. Et je crois que normalement, il faudrait qu'on puisse arriver à modifier Dublin 3. Mais ça ne sera pas difficile, puisque c'est surtout, comme j'expliquais avant, c'est aussi les États membres qui doivent se mettre d'accord, le Conseil, puisque le Parlement est en train de faire un travail exceptionnel. Mais je crois que la Commission aussi, après ça, elle a compris. Si vous me permettez, au-delà de Dublin 3, j'aimerais, après avoir entendu beaucoup de propos sur beaucoup de thèmes, j'aimerais aussi rappeler qu'il y a quelques jours, le Parlement européen a demandé un rapport d'initiative. C'est justement pour essayer d'aller au-delà de cette approche sécuritaire dont on a entendu il y a quelques minutes. C'est aller au-delà à travers un rapport d'initiative qu'on doit travailler ensemble avec le commissaire, mais qui touche justement beaucoup de points, puisque j'ai entendu beaucoup de critiques. Mais je crois qu'il faut aussi, à un certain moment, se rendre compte que le travail n'est pas facile et que le Parlement européen est en train de pousser très fort sur la Commission, sur le Conseil. Oui. Et le rapport d'initiative qui ne regardera pas seulement les obligations de sauvetage et recherche, mais ça sera un rapport d'initiative.
Madame Kiengé, je vous laisserai développer en deuxième partie tous ces aspects-là. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps des infos, avant de retrouver nos invités pour continuer de parler de politique migratoire en Europe. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzimy tutta Europa.
Rozkrucia Europei.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
carrefour de l'Europe.
Abla Jounaïdi, Guillaume Meunier.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe où l'on parle aujourd'hui du défi migratoire. On a tous vu ces images de migrants qui risquent leur vie pour rejoindre l'Europe en barque ou à pied. Les chiffres cités par Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'UE, au début du mois ont de quoi alarmer. Près de 300 000 migrants en situation irrégulière sont entrés dans l'UE en 2014. 3 000 sont morts. L'Europe est-elle dépassée? Que fait-elle pour répondre à ce défi? Avec quels moyens? Comment préserve-t-on sa stabilité sans remettre en cause ses acquis et ses valeurs? Nous invités, Karine Parot, professeur des universités à la faculté de Cergy-Pontoise, Jean-François Dubeau, responsable du programme Personnes déracinées d'Amnesty International France, et en ligne de Bruxelles, Cachetou Kienge, eurodéputée italienne, ancienne ministre de l'intégration. Alors, de plus en plus de voix à l'extrême droite, mais pas seulement, demandent de réformer un des acquis majeurs de la construction européenne, l'espace Schengen, la libre circulation des biens et des personnes dans 26 États européens. Selon ses détracteurs, il n'assure plus la sécurité, car tous les États n'assurent pas le contrôle des entrées. De la même manière, l'Italie, encore une fois, est pointée du doigt, entre autres. Cachetou Kienge, est-ce que l'espace Schengen tel qu'on l'a connu est menacé d'après vous?
Je crois que c'est une des valeurs ajoutées que l'Europe a connues après la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas mettre en discussion l'espace Schengen, c'est-à-dire la libre circulation. Et toute discussion, comme l'a dit aussi le président Juncker, ça serait vraiment, je crois que ça serait un échec. Mais de la part aussi des socialistes et démocrates, nous ne sommes pas pour remettre en discussion l'espace Schengen. Mais je crois qu'il faut apprendre à gérer le phénomène migratoire, gérer un problème. Et c'est pas la fermeture qui est une solution au phénomène migratoire. On doit simplement essayer de mieux nous coordonner, de trouver des directives, des normatives et traduire tout ça dans une réponse politique.
Alors, cette question des migrations agite la Grande-Bretagne, une des destinations les plus prisées par les migrants qui sont un millier en ce moment à attendre de passer sur ses rives à Calais, dans le nord de la France. On va faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Thierry Philly.
Bonjour.
La Grande-Bretagne n'est pas dans la zone Schengen, mais l'idée de sortir de l'UE fait son chemin là-bas.
Absolument, Ablin. En fait, je reviens sur un papier que nous avons publié du Financial Times sur la question d'immigration, aussi la question d'une sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ça se centre vraiment autour de la question de l'immigration, à savoir qu'en novembre 2014, le Royaume-Uni, c'était un chiffre choc. Le Royaume-Uni a enregistré une hausse de 43% de l'immigration nette entre juin 2013 et 2014. C'est-à-dire, ce pourcentage correspond à 260 000 personnes. Et c'est un nombre supérieur pour ces 12 mois à n'importe quelle année précédente. Et ce chiffre a complètement tourné en dérision la promesse du gouvernement conservateur qui avait affirmé son intention de réduire l'immigration nette à moins de 100 000 personnes. Tout simplement, le gouvernement n'est pas parvenu à ces fins pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il ne peut pas maîtriser les flux issus de l'Union. Par la suite, c'est le Premier ministre David Cameron, parce qu'il y a aussi le débat non seulement sur l'immigration, mais sur ce qu'on appelle le welfare tourism, c'est-à-dire les immigrants de l'Union qui vont en Grande-Bretagne uniquement pour bénéficier des aides sociales généreuses du Royaume-Uni. Le Premier ministre, il a annoncé le 28 novembre que les ressortissants de l'Union vivant sur le sol britannique ne toucheraient plus les aides sociales avant 4 années de travail effectif sur le territoire. Les discussions, le ton a beaucoup monté à cette époque entre le Parti conservateur, le gouvernement à Londres, et Bruxelles, et aussi Berlin. Alors pourquoi David Cameron agit ainsi? C'est parce qu'il y a une certaine hystérie dans son parti face au succès électoral de UKIP. C'est le principal parti eurosceptique et à un mois des élections en Grande-Bretagne. C'est le troisième parti en Grande-Bretagne après les conservateurs et le parti travailliste avec 15%. C'est un parti qui pourrait être décideur dans les élections parce qu'il n'y aura aucun parti qui aura une majorité dans le prochain gouvernement selon les sondages. Donc UKIP pourrait soutenir un gouvernement conservateur dans les prochains mois. Il faut dire aussi qu'au sein, il va y avoir un référendum sur rester ou pas dans l'Union européenne en 2017. Si UKIP soutient un prochain gouvernement conservateur, ça sera à la fin de l'année, selon Nigel Farage. Mais cette question va troublé pendant longtemps n'importe quel gouvernement, le parti travailliste et le parti conservateur dans les mois à venir.
Merci Jerry Fili. Alors les Polonais européens depuis 2004 n'échappent pas à l'anathème d'une partie de la classe politique britannique. Ce pays de vieille émigration à la faveur de l'essor économique accueille à son tour des migrants venus surtout du pays voisin, l'Ukraine. Barthélémy Zdaniuk, politologue à l'université de Varsovie.
D'un côté, on a une continuation de l'immigration. De l'autre, on a une immigration, mais il s'agit de l'immigration qui vient le plus souvent d'Ukraine. Il n'y a pas de problème au niveau de l'intégration des populations qui viendraient d'Ukraine, surtout que ces personnes, très souvent, viennent pour quelques semaines, puis repartent, et ainsi de suite. On peut constater que l'immigration d'après 2004, donc de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, cette immigration et immigration en même temps ont un caractère, je dirais, assez flexible, assez mobile. Nombreux sont ceux qui font un peu la navette, qui travaillent quelques semaines, quelques mois dans un pays, qui reviennent dans l'autre. L'espoir serait qu'au moins une partie de ces gens-là vont revenir et qu'ils vont amener avec eux le savoir-faire, les économies. Cela se produit déjà un peu, puisqu'avec l'Union européenne, il est possible d'être un peu à cheval entre les deux pays. Le discours sur le danger de l'immigration, notamment de l'Europe centrale, c'est un discours politicien pour faire de la communication, pour faire peur aux gens. Si on compare en gros au total l'ampleur de l'immigration, le nombre de personnes qui sont parties et l'argent qui par la suite a été créé, on peut dire que cette immigration est très bénéfique aux pays d'accueil.
Alors Jean-François Dubos, de très nombreuses études attestent du bienfait économique de la présence migratoire, mais les migrants sont plus que jamais un thème politiquement mobilisateur. Est-ce que c'est parce que, en fin de compte, on confond un peu tout, celui qui vient pour travailler, celui qui fuit les conflits, finalement on résume tous ces profils à un élément exogène qu'on peut assimiler à toute forme de menace extérieure, y compris djihadiste. Par exemple.
Oui, pour nous, Amnesty International, notre grande critique à l'attention des États membres, des gouvernements, des politiques plus largement, même s'ils ne sont pas au sein des gouvernements, c'est de ne pas faire de pédagogie, de ne pas expliquer, de ne pas avoir le courage de décrire la réalité telle qu'elle est à nos frontières ou sur nos territoires, de ne pas dire, comme a pu le faire, d'ailleurs c'est une exception, le ministre Cazeneuve en France à Calais à la fin de l'année dernière, qui a clairement qualifié de réfugiés les personnes qui étaient présentes, en disant que ce sont des personnes qui ont besoin de protection et qui ne jouent pas avec les règles de Schengen, et bien voilà le type de discours qu'on attendrait plus souvent, y compris de la classe politique française, mais plus globalement de la classe politique européenne, dans les différents États membres, un discours de vérité assez clair qui permettrait à la population de s'élever un peu d'un niveau et de sortir de ce que font les partis populistes et xénophobes, c'est-à-dire de simplifier les situations, comme vous le dites, de tout mélanger et finalement de jouer sur les peurs. Ça permettrait d'éviter finalement de réduire le migrant, la personne qui bouge, qui vient vers l'Union européenne, plus généralement qui effectivement quitte son pays, la réduire à une figure de danger, et parce que la logique ensuite c'est de dire si c'est un danger, alors on va utiliser des moyens de répression qui ressemblent beaucoup à ce qu'on fait contre les criminels. Mais sauf qu'un migrant en soi, une personne, et surtout aujourd'hui où on a une claire connaissance des causes de ces migrations, notamment avec la Syrie, qui illustre, je veux dire, c'est pas tous les Syriens, tous les migrants aux frontières de l'Union européenne ne sont pas Syriens, mais je veux dire, on a quand même des exemples avec l'Érythrée, on a des nationalités où c'est quand même assez facile de faire le lien entre ce qui se passe dans le pays, dans la région, même d'un point de vue économique pour d'autres situations. Eh bien, voilà, c'est assez simple de se rendre compte que ces personnes, en soi, ne constituent pas un danger.
Je me tourne vers vous, Karine Parot, spécialiste du droit. Est-ce que cette image négative, finalement, qui pèse sur le migrant, a des conséquences sur le droit et son application? Je pense aux conventions sur le droit d'asile qu'on a signées en tant qu'Européens.
Bien sûr, des conséquences directes et graves. Le tournant là dont on parle, cette absence de pédagogie et qui en réalité, qui confine à la propagande sécuritaire, elle date de, disons en gros, le 11 septembre évidemment 2001 y est pour beaucoup, puisque juste à ce moment-là, l'Union européenne se posait encore la question de savoir qu'est-ce qu'elle allait faire avec ses frontières extérieures. Est-ce qu'on ouvre intelligemment? Est-ce qu'on essaye de penser à la manière de vivre avec les autres, ou est-ce qu'on se renferme sur nous-mêmes? Et le 11 septembre a mis un terme aux discussions et on sait l'Union européenne s'est engagée dans la voie de la fermeture des frontières. Depuis lors, le discours officiel des dirigeants de l'Union européenne a toujours lié la lutte contre la migration et la lutte contre la criminalité transfrontière. Donc il y a un amalgame qui est fait et qui est extrêmement dangereux. Et à partir de là, tout est possible. Alors oui, ça a des conséquences directes pour répondre à votre question. Les conséquences que l'on voit, puisque la fermeture des frontières, tant juridiques par les visas qui sont toujours nécessaires pour pouvoir venir en Europe, que physiques par Frontex, les murs, etc., empêche les migrants de parvenir en Europe.
Alors, Kachetou Kyenge, souvent c'est la pauvreté, en tout cas le manque de perspectives économiques qui incite les migrants à partir malgré le danger. Vous êtes très impliqué dans les politiques de développement que met en place l'Union européenne, notamment en Afrique. Est-ce que c'est une partie de la solution au problème et est-ce que vous sentez un véritable élan sur ces questions-là au Parlement et de la part de la Commission?
Oui, exactement. C'est, je crois que c'est très important de pouvoir distinguer entre les migrants économiques et aussi pour voir les gens qui fuient à cause des conflits et tout ça. Puisque selon les causes, selon les facteurs qui provoquent justement le déplacement, on a des réponses différentes. Alors, on a l'Union européenne, disons, s'est engagée beaucoup sur ce thème. Vous savez que cette année, c'est l'année internationale pour le développement. Il s'est beaucoup engagé sur ce thème pour aussi renforcer les accords et surtout la collaboration avec les pays tiers d'origine et aussi de transit des migrants. Donc cet aspect, c'est très important aussi, le fait de renforcer les voies légales de l'immigration, ça nous aide à pouvoir enlever cette image d'une Europe forteresse, d'une Europe qui est renfermée en soi-même, mais de pouvoir explorer toutes les voies pour donner la possibilité à chaque personne de décider s'il peut se déplacer ou bien s'il peut rester dans son pays d'origine. Et là où il y a des conflits, essayer d'accompagner ces pays à travers une stratégie, une forte politique étrangère, à travers aussi le rôle de la haute commissaire la Mogherini. Donc vous voyez que au niveau du Parlement, il y a beaucoup de choses peut-être qui ne sont pas tellement connues, mais il y a beaucoup d'efforts que nous sommes en train de fournir et justement pour changer cette image de sécuritaire et passer justement à mettre à l'intérieur l'humanitaire et affronter pas sectoriellement, mais séparément, mais d'une façon holistique et globale.
Karine Parot, vous vouliez revenir sur les obstacles qui se posent lorsqu'un migrant veut entrer légalement sur le territoire européen.
Pour rebondir sur ce que disait Madame la députée, c'est pas toujours facile. Enfin, il me semble que le problème du droit d'asile, il est difficile de l'envisager de manière complètement isolée. Aujourd'hui, au regard du droit, quelque part, on peut voir les choses de manière binaire. Il y a finalement les bons migrants, ceux qui relèveraient de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et donc qui rempliraient les critères pour obtenir le statut de réfugié en vertu du droit international. Et de l'autre, les migrants économiques dont on saurait pas trop quoi faire et en fait dont l'Union européenne a décidé de se passer. Dans les faits, les raisons pour lesquelles les gens migrent sont souvent complexes. Alors évidemment, dans le cas de la Syrie, dans le cas de l'Érythrée, ou dans le cas de la Libye, où les gens sont l'objet de violences, on va dire pour faire vite, là c'est relativement facile. Mais dans la plupart des cas, l'éventail des raisons pour lesquelles les gens partent sont larges. Et c'est très difficile de se porter juge, sachant que il faut quand même bien avoir à l'esprit que les Européens, les gens qui vivent dans les pays riches, eux, trouvent tout naturel, dans leur imaginaire collectif, ils peuvent, vous et moi, si on veut demain décider finalement d'aller habiter au Maroc, pourquoi pas, oui. Sachez que le Maroc, sous la pression de l'Union européenne, a mis en place un délit d'émigration illégale. Quand on est marocain, pour quitter le Maroc, il faut une autorisation de l'État. Donc, cette inégalité fondamentale entre les riches qui auraient le droit de circuler librement et les pauvres qui devraient montrer qu'ils sont susceptibles d'être victimes de violences terribles pour pouvoir bouger, ça me semble pas tenable d'un point de vue éthique à moyen terme.
Jean-François Dubos, développer les zones de départ, est-ce que ça fait partie de la solution ?
Oui, certainement, évidemment, résoudre le conflit en Syrie, résoudre ce problème de l'Érythrée, dictature depuis 20 ans, et on pourrait allonger la liste comme ça d'exemples, c'est évidemment des solutions. Après, ce sont souvent des réponses qui nous sont apportées pour nous dire « Non, mais le problème des morts en Méditerranée, de nos frontières, on va le résoudre de cette façon-là. » Non, parce qu'en réalité, ce problème-là des morts en Méditerranée, des frontières meurtrières ou dangereuses, c'est un problème de court terme. Et le développement des pays, la résolution des conflits, c'est un problème de moyen ou long terme. Donc la réponse n'est pas adaptée. Par rapport à ça, la question de la coopération avec soit les États d'origine, mais plus souvent pour l'Union européenne, les États de transit, parce que c'est aussi une façon d'essayer d'endiguer ou d'empêcher que les personnes n'arrivent aux frontières ou aux portes de l'Union européenne. Pour nous en soi, pourquoi pas si cette coopération permet ou pousse chacun des États de la communauté internationale à mieux respecter ses obligations de protéger les droits des migrants, de protéger la vie des réfugiés. Si c'est dans ce sens-là, parfait, parce que tous les États de la communauté internationale se doivent de protéger les droits de ces personnes en mouvement. Mais pour nous, la coopération, le constat qu'on fait de la coopération de l'Union européenne avec des États tiers, des États de transit, ne fonctionne pas parce que il se fait un peu à tout prix. C'est-à-dire que le prisme de l'Union européenne, c'est de se dire cette coopération doit doit nous permettre d'empêcher des personnes d'arriver à nos frontières, migrants ou réfugiés, peu importe la distinction. Et cela se fait au prix même de coopérer, comme ça a été le cas avec la Libye. Il y avait une mission d'assistance civile européenne en Libye, alors que la Libye n'a ratifié aucun texte international relatif à la protection des réfugiés et des migrants. Donc notre demande, c'est de dire à l'Union européenne pour Amnesty International, et on l'adresse actuellement dans le cadre d'une pétition ouverte à signature des citoyens européens, notamment pour François Hollande en France, c'est de dire pas de coopération avec les États tiers s'il n'y a pas de respect préalable par ces États des droits des réfugiés et des migrants.
Madame Kachetou Kyenge, elle est inégale la relation entre l'Union européenne et ses pays tiers?
Je crois qu'il a parfaitement raison, puisque ça a toujours été ma lutte et qui continue aussi au niveau du Parlement, c'est-à-dire pouvoir faire des accords avec les pays tiers. Il faut aussi que ces pays respectent exactement les accords, surtout de droit international. Ils doivent aussi surtout respecter les droits humains. D'ailleurs, si vous voulez que je vous rappelle, j'avais justement condamné les accords qui étaient entre l'Italie et la Libye quand il y avait le président Kadhafi, puisque les migrants pratiquement étaient enfermés dans des centres de détention. Et je crois que le problème n'est pas seulement celui de dénoncer, mais c'est celui aussi d'agir, c'est celui aussi de se rendre compte, de prendre conscience. Et par contre, je ne suis pas tellement du même avis avec votre invitée Karine, puisque elle a quand même dit beaucoup de thèmes sur lesquels je peux être d'accord, mais peut-être c'est la conclusion qui n'est pas tellement satisfaisante, puisque nous sommes au courant des difficultés qu'il y a envers les migrants. C'est pas question de dire on se porte juge pour pouvoir dire tel doit pouvoir migrer, tel autre ne doit pas migrer, mais c'est aussi de revoir les critères jusqu'à présent adoptés pour les réfugiés. Actuellement, on sait qu'il y a des gens qui sont en train de fuir le changement climatique, qui n'est pas inclus parmi les critères des réfugiés. Donc là, il y a toutes ces difficultés dont nous sommes exactement conscients. Et notre rôle, c'est celui de pouvoir donner une réponse et malgré les difficultés, de pouvoir essayer de traduire tout ça en un projet politique.
Karine Barreau, vous vouliez réagir au propos de Madame l'Eurodéputée.
Justement, sur cette question, je ne doute pas qu'au Parlement européen, vous travaillez pour que la coopération avec les pays tiers se fasse conformément aux accords internationaux. Sauf que quand ils ne les ont pas signés, ces pays tiers, les accords internationaux, ça ne pose pas trop de problèmes. Et dernièrement, là, on peut parler du processus dit de Khartoum là, qui se lance, où l'Union européenne va discuter avec l'Égypte, l'Érythrée hein, quand même, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan, pour essayer de voir comment on peut gérer, avoir une approche globale, comme ils disent, des migrations. Ça veut dire qu'il va y avoir à la fois des aides au développement, mais à la fois et surtout, j'ai envie de dire, on va réfléchir aux moyens de bloquer les routes des migrants. Et puis autre chose qui me paraît particulièrement inquiétante et qui est un peu quelque chose qui revient assez souvent dans les périodes dites de crise, hein, qui en réalité n'en sont pas. Là, pour le coup, c'est les ministres de l'Intérieur des États membres qui envisagent la mise en place de centres de traitement des demandes d'asile dans des pays tiers, hein, dans les pays limitrophes tels le Niger, l'Égypte, la Turquie ou le Liban. Alors évidemment, externaliser l'asile, hein, c'est-à-dire faire des centres dans les pays de transit limitrophes pour examiner, faire un pré-examen des demandes d'asile, on imagine la manière dont ces demandes vont être instruites quand on sait déjà la manière dont elles sont instruites dans les pays autoproclamés démocratiques.
Alors Jean-François Dubos, j'ai une question. Parmi les migrants que vous rencontrez en Europe, ou bien ceux qui sont toujours en instance de départ, ou en tout cas en fuite dans les camps de réfugiés, au Liban, en Irak, en Jordanie ou en Turquie, il y a des profils qui pourraient intéresser une Europe qu'on dit vieillissante, hein, en termes de, je veux dire simplement de qualification.
Oui, certainement. On pourrait discuter du profil du migrant en général dans le monde, et on serait surpris de voir, contrairement à ce que beaucoup disent, que ce sont pas les personnes les plus pauvres et les abusés qui viennent, mais au contraire, il faut avoir un certain niveau d'éducation et de vie pour justement entreprendre ce type de migration. Mais j'ai pas envie de m'aventurer sur ce débat, parce que là aussi, on commence à segmenter, recouper, opposer des catégories de personnes. Donc oui, le profil, mais non si c'est la façon pour l'Union européenne de répondre en ne regardant que ses propres besoins et ses propres intérêts. D'autant plus que dans le contexte actuel, et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, la majeure partie des migrants qui se présentent au niveau de l'Union, aux frontières de l'Union européenne, et Frontex, le dernier rapport de l'agence Frontex le précise bien, sont des personnes qui fuient des persécutions, des situations de violence généralisée, des violations des droits humains, des situations instables. Donc on n'est pas du tout sur un profil de recherche d'opportunités économiques, de travail. On est vraiment sur un profil de fuite contrainte. Donc en plus, même penser une réponse de l'Union européenne autour uniquement de voies légales et de critères, la fameuse immigration choisie, pour reprendre des mots assez malheureux d'ailleurs, n'aurait pas de sens dans le contexte actuel et conduirait vraisemblablement à un échec partiel. En revanche, les solutions existent déjà en pratique. Ouverture de la politique des visas ou assouplissement à l'égard des migrants en général et des réfugiés en particulier, mise en place de systèmes de réinstallation d'admission humanitaire, partage des solidarités au sein de l'Union européenne avec l'Italie et la Grèce de la part des autres États membres. En fait, toutes les techniques, même Dublin, on pourrait l'appliquer de façon telle qu'il a été pensé, alors que là, il est appliqué dans une perspective complètement restrictive, ce système de répartition des demandeurs d'asile. Donc, en réalité, pour nous, si l'on est dans cette contestation, cette dénonciation, c'est parce qu'en réalité, ce qui fait défaut à l'Union européenne, c'est juste une décision politique. C'est pas la construction de nouveaux outils ou de nouveaux systèmes ou une approche très élaborée ou complexe. C'est juste la décision de le faire. Et le problème aujourd'hui, c'est que des personnes meurent davantage, 400 depuis le début de l'année, c'est du jamais vu en Méditerranée, et ça ne fait bouger personne au niveau des chancelleries européennes. C'est pour ça qu'effectivement, on est en colère et on le dénonce régulièrement.
Karine Parot, effectivement, si on appliquait le droit tout simplement et les conventions effectivement signées, on éviterait tous les drames qui ont cours en Méditerranée sur la route des migrants.
Ah, bien sûr, puisque la Convention de Genève de 1951 interdit le refoulement des individus. Donc ça veut dire n'importe qui peut pénétrer le territoire des États signataires de la Convention, et tous les États membres de l'UE le sont. Et n'importe qui peut pénétrer sans papier, sans rien, et demander l'asile. Après, c'est autre chose de savoir s'il va l'obtenir. Donc, bon, finalement, c'est un peu reculé pour mieux sauter. Mais déjà, dans un premier temps, en principe, les personnes devraient pouvoir venir, ne serait-ce que pour demander l'asile. Et d'ailleurs, là, pour le coup, Frontex nous aide un petit peu, puisque il montre que les chiffres ne cessent d'augmenter ou d'être les mêmes, peu importe, la bataille n'est pas une bataille de chiffres. Ce qu'on voit, il me semble plus profondément, c'est que les migrations apparaissent comme inéluctables. Les gens bougent même au péril de leur vie. Ce qui, pour des Européens comme nous, qui sommes absolument obsédés par la sécurité, qui avons des assurances pour à peu près tous les actes de la vie courante, ce qui nous laisse en fait un peu, à mon avis, perplexes face à ce phénomène. Donc les gens bougent, même au péril de leur vie. Si des barrages sont érigés à un endroit, ils changent de route. Ceux qui veulent venir viendront. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on réfléchit à une politique qui soit humaine, hein, ou est-ce qu'on continue aveuglément cette politique, à mon avis, un peu qui est menée, nos dirigeants sont un peu perdus. Je pense qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'action politique au sens propre, et ils se rabattent sur le sécuritaire.
Kachetou Kyenge, je m'adresse à l'ancienne ministre de l'intégration que vous avez été. Est-ce que selon vous, c'est une des raisons du repli, cette propension à voir le migrant comme une menace et non comme une ressource?
Oui, exactement. C'est-à-dire, selon moi, on doit premièrement avoir une prise de conscience que les diversités, c'est une et par là, il n'y a pas seulement les migrants. On doit parler un peu en général aussi de la diversité, puisque ça fait partie aussi de la hausse, de l'augmentation du populisme sur tout ce qui est différent, tout ce qui est diversité. Et les premiers, ce sont les migrants. Alors, tant qu'on ne comprendra pas que les migrants font partie d'un phénomène qui est un phénomène naturel et qu'on doit apprendre à gérer le phénomène, naturel, et je crois que ça sera un peu difficile de pouvoir en sortir. Jusqu'à présent, la crise économique a un peu abruti la population par manque aussi de réponses au chômage, manque de réponses à beaucoup de questions que nous sommes en train de vivre sur le territoire européen. Et la première chose, c'est celui d'avoir un coupable, celui de créer le vrai coupable sont toujours les personnes vulnérables, les personnes faibles, les personnes qui ne sont pas en degré, en mesure de pouvoir se défendre ou ne connaissent pas leurs droits. Alors là, le migrant, vous voyez que c'est la personne qui est offerte comme le vrai coupable. Mais je crois que c'est une question de mentalité, une question culturelle. On doit commencer aussi par l'éducation dans les écoles. Je peux prendre l'exemple de l'Italie, qui est un pays d'immigration qui était un pays d'émigration. On n'enseigne pas suffisamment dans les écoles ce passage, cette valeur ajoutée entre qui est l'immigration, et on travaille pas tellement sur la mémoire de l'émigration, puisque les Italiens ont connu la même chose en allant dans les autres pays, et aujourd'hui ce sont les autres personnes qui arrivent en Italie. Je crois du point de vue culturel, on doit travailler beaucoup sur ça pour comprendre les raisons et comprendre aussi cette transformation de notre société, et les politiques doivent accompagner tout ça avec des instruments qui sont législatifs, mais aussi qui sont une vraie politique européenne. Donc, j'ai parlé au début, c'est-à-dire un vrai brassage au niveau de l'Europe, qui ait moins d'inégalités au niveau de l'Europe, ça pourrait aussi nous aider à pouvoir avoir une même vision. Alors là, au final, moi, je voudrais dire que ce qui nous sert aujourd'hui, à part le fait d'avoir une vraie politique, c'est le fait d'avoir une même vision au sein des 28 pays de l'Union européenne, de changer d'approche et surtout de donner une nouvelle vision à l'Union européenne.
Merci, nous terminerons sur ces mots à cette émission qui décidément mériterait beaucoup plus de temps pour aborder cette question si complexe, si riche des migrations. Merci à vous, Madame Cachetou Kienge, eurodéputée social-démocrate italienne. Vous étiez en duplex de Bruxelles. Merci Karine Parot, professeure des universités à la faculté de Cergy-Pontoise. Jean-François Dubos, merci, responsable du programme Personnes déracinées d'Amnesty International France. Votre dernier rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde est à lire sur le site d'Amnesty. Merci à vous de nous avoir suivis. Guillaume Munier à la réalisation. Pour écouter l'émission et poursuivre le débat, n'hésitez pas à vous rendre sur le site rfi.fr, rubrique émission Carrefour de l'Europe, et sur nos pages Facebook et Twitter. Où que vous soyez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.